Chapitre 45. Zénaïde reçoit une verte semonce. Si la comtesse passa une nuit désagréable, en revanche, Zina dormit sur les nuages. La colère de sa mère ne pouvait durer, elle le sentait bien. Son frère était sauf, la comtesse n'avait pas même pensé à lui. Les innocents ne souffriraient pas, et Lissa roulait à grande guide vers Saint-Pétersbourg, bien soignée par sa mère. Tout était donc pour le mieux. Quelle bonne idée a eu cet imbécile quand il a parlé de l'étang, se disait la jeune fille en faisant sa toilette de nuit. C'est lui qui a tout sauvé. À présent, maman ne peut plus se mettre si fort en colère. C'est qu'elle a eu vraiment peur. Oh, Misina, Misina, répétait l'anglaise, complètement abrutie par tant d'événements divers. Comment avez-vous pu mettre le feu?
Avec des allumettes, Miss Junior, répondit l'incorrigible railleuse.
Mais vous pouviez incendier le domaine entier, et nous aussi.
Je vous ferai observer, très chère Miss, que la grange était isolée et qu'il ne fait pas un souffle de vent.
Oh, Miss Zina, mais vous avez pu faire ça toute seule, et vous n'avez pas eu peur?
Si fait, Miss Junior, j'ai eu grand peur d'être rencontrée et empêchée, quand ce n'eût été que par vous.
Et si vous m'aviez rencontrée, en effet? Dit l'anglaise avec curiosité.
Eh bien, ma chère Miss Tremble, toujours, je vous aurais prise par le bras. Je vous aurais fait courir, vous ne courez pas trop mal quand on vous talonne comme il faut, et nous aurions mis le feu ensemble. »
L'anglaise recula d'horreur.
« Et si vous aviez parlé mal à propos, j'aurais dit à maman que la renommée d'Hérostrate vous empêchait de dormir et que vous m'aviez poussé à cet acte criminel. »
« On ne sait jamais si elle plaisante ou non, » grommela l'institutrice en gagnant son lit.
« Et j'espère au moins, Misina, que vous n'avez pas l'intention de mettre le feu ailleurs. »
« Non, ma bonne amie, pas pour le moment, » répondit Zénaïde avec aménité. La gouvernante fit, cette nuit-là, des rêves épouvantables. Le lendemain fut un jour triste. Une petite pluie fine et serrée couvrait tout d'un voile grisâtre. L'anglaise était morose et songeait à quitter cette maison dangereuse où se passaient des choses incompréhensibles. Zina elle-même ne pouvait retrouver sa belle humeur. Elle sentait venir l'explication retardée par sa mère, et cette attente n'avait rien de réjouissant. Enfin, après le déjeuner, la comtesse, qui l'avait doucement écartée du geste quand elle s'était approchée pour lui baiser la main, appela sa fille dans le petit salon.
« Ma fille, lui dit-elle, vous avez le temps de méditer sur votre conduite. J'espère que vous sentez la grandeur de votre faute. »
Zina, qui tenait devant elle la tête baissée, leva les yeux et regarda sa mère. Depuis leur arrivée à la campagne, depuis surtout la séquestration de sa cousine, cet enfant était devenu une jeune fille, et chose étrange, en la voyant injuste et despotique, elle avait cessé de craindre sa mère.
« Oui, maman, répondit la jeune indisciplinée, j'ai eu grand tort, je l'avoue, de me servir du feu pour faire réussir mes projets. Si les circonstances m'avaient mal servi, je pouvais incendier la maison, peut-être le village, et causer ainsi des dommages irréparables. J'ai eu grand tort, je vous en demande sincèrement pardon. »
La comtesse demeura stupéfaite. Sa fille avait donc mal compris? Elle, dont l'intelligence si prompte saisissait au vol, pour ainsi dire, les moindres pensées?
« Cette faute est grave, j'en conviens, » reprit la châtelaine, « et je suis bien aise que vous en compreniez l'étendue. Mais votre faute envers moi est bien plus énorme encore, et c'est de celle-là que je veux parler. »
Sa fille la regarda, ne répondit rien, et baissa les yeux.
« Vous m'avez comprise, j'espère, » dit la comtesse d'un ton plus âpre.
« Non, maman, » fit la jeune rebelle, « j'avoue que je ne comprends pas bien. Vous parlez en ce moment de la part que j'ai prise à l'évasion, à l'enlèvement, » corrigea la comtesse,
« de ma cousine, »
poursuivit l'indomptable enfant. « Eh bien, si c'est de cela qu'il s'agit, ma conscience ne me reproche rien. Et vous-même, maman, » ajouta-t-elle avec l'habileté d'un vieux diplomate, « vous ne me parlez ainsi que pour me mettre à l'épreuve. Votre cœur, j'en suis sûr, est d'accord avec le mien. »
Quelle perche, Zina tendait à sa mère.
Aussi la comtesse, qui sentait vaguement son autorité s'en aller à volo, s'y cramponna sur le champ. Un coup d'œil à la dérobée annonça à la jeune fille le succès de sa ruse.
« Il ne s'agit pas de mon cœur, » répliqua la comtesse. « Mon cœur peut me diriger dans un sens et le devoir rigoureux m'attirer vers un autre. »
« Oh, maman, vous, si bonne, n'avez-vous pas fait toute votre vie, tout le bien possible? Et n'est-ce pas parce qu'au fond, vous ne pouvez vouloir que ce qui est bien ?
La comtesse avala ce compliment doux comme miel. Le mot, au fond, eut bien quelque peine à passer. Mais avec une nature aussi fougueuse que celle de Zina, il ne fallait pas faire sentir inutilement le mort. Ce fut du moins la raison dont se paya la bonne mère. « Ne pouviez-vous vous fier à moi pour lever la punition de votre cousine quand il serait temps ?»« Maman, vous qui l'avez vue tous les jours, vous ne savez pas combien elle était faible et malade. » »« Ni si faible ni si malade puisqu'elle a pu aller jusqu'à la voiture. » »«
Elle n'a pas marché tout le temps. » »«
À la fin, j'étais obligé de la porter, » riposta Zénaïde. Cette parole, lancée comme une balle, atteignit la comtesse en pleine poitrine. Quel courage que celui de sa fille, quelle énergie, quelle adresse, quel dévouement.
C'est une héroïne,
se dit-elle avec orgueil.
Et qu'en avez-vous fait?
Continua-t-elle tout haut. Je l'ai rendue à sa mère. Où cela? Derrière le cimetière des paysans.
Vous avez traversé le cimetière?
Oui, maman. C'est là qu'elle a perdu ses forces et que je l'ai prise dans mes bras. Et sa mère, qu'a-t-elle dit?
Elle m'a dit que Dieu me récompenserait.
La comtesse baissa les yeux devant le regard fier et innocent de sa fille. « Et elle, votre cousine ?»«
Elle n'a rien dit, elle était évanouie. »
Le silence se fit sur cette parole. La comtesse méditait.
« Pourquoi, dit-elle enfin, Madame Gorov n'a-t-elle pas pris la peine de me redemander sa fille en plein jour, honnêtement, au lieu de faire un enlèvement nocturne, un de ces esclandres romanesques ?»
Il est impossible de rendre le mépris que la comtesse fit entrer dans ce mot « romanesque ». Dans sa pensée, c'était la qualification de tout ce qui est vulgaire et sentimental, de la sensiblerie de bas étage.
« Maman, répondit Zina de sa voix la plus caressante, vous lui auriez refusé sa fille.
« Qu'en savez-vous ? Riposta la comtesse, blessée au vif.
« Si vous aviez eu l'intention de la lui rendre, vous ne l'auriez pas gardée si longtemps. »
Un nouveau silence suivit cette sortie audacieuse. La mère eut besoin de se rappeler que sa fille était une héroïne pour ne pas lui administrer un soufflet. Mais ce moment de passion fut de courte durée. La comtesse offrit à Dieu le sacrifice de sa colère et reprit plus tranquillement.
« Qui est-ce qui a prévenu Madame Gorov ?»«
Moi, » répliqua Zénaïde, mentant avec un aplomb admirable. « Personne ne vous a aidé ?»«
Qui eût pu me venir en aide sans courir le risque de vous déplaire ?»
« Pensez-vous, maman, que j'aurais voulu exposer vos serviteurs à perdre vos bonnes grâces ?»«
Comme c'est facile de mentir, » ajouta mentalement cette jeune créature si profondément perverse.
La comtesse prit son parti de l'événement. Non qu'elle ne fût profondément mystifiée d'avoir été ainsi le jouet d'une enfant de 17 ans à peine, sa propre fille par-dessus le marché, mais précisément, parce que la délinquante était sa fille, la coupe lui paraissait moins amère. Elle reconnaissait avec orgueil son entêtement devenu persévérance, son courage et la noblesse originaire de son caractère à elle, faussée désormais à son insu par l'abus de l'autorité, mais jadis fier et indépendant comme aujourd'hui celui de Zénaïde. Et puis, à vrai dire, elle était très contente de ne plus avoir à s'occuper de cette affaire désagréable. La réclusion de Vassilissa commençait à lui faire du tort dans le voisinage, elle le sentait. La veille de l'événement, elle eût donné gros, avons-nous dit, à celui qui lui procurait le moyen de trancher la situation. La situation se trouvait tranchée et il ne lui en coûtait rien. Après un silence méditatif, « Est-ce par amitié pour votre cousine que vous avez tramé tout ce complot ? » dit-elle avec une nuance d'enjouement.
« Oui, maman, et puis aussi... » Zina se rapprocha de sa mère et se mit à genoux auprès d'elle, jouant avec les plis de sa robe comme lorsqu'elle était petite fille.
J'ai pensé que ma mère serait plus tranquille lorsque Vassilissa serait partie. Ma mère avait juré de ne pas céder. Ma cousine a du caractère, elle serait morte sans plier. Et ma mère eut alors versé des larmes bien amères et bien inutiles.
Zina prononça très bas ces dernières paroles, la tête presque sur les genoux de la comtesse.
« Vous a-t-elle dit ce que j'exigeais d'elle ? » fit la mère, non sans quelque inquiétude.
« Non, maman. » Elle vous avait donné sa parole de garder le secret, et je n'ai pas cherché à le savoir.
La comtesse entoura de ses bras la tête bouclée de la jeune criminelle.
« Vous avez un noble cœur, lui dit-elle, mais prenez garde aux entraînements de votre caractère. La discipline, mon enfant, la discipline. Je vous pardonne. »
Un baiser maternel termina cette allocution. Zina, rendue à la liberté, s'éloigna avec la gravité d'une carmélite.
« Elle est superbe. »
se dit la mère en la regardant aller.
Et quel caractère! C'est une romaine.
Chapitre 46e. Le comte Koumiassine reçoit une visite imprévue. Un joli soleil du commencement d'août dorait de ses rayons paille les quais en granit de la Neva, faisant scintiller la splendide rivière. Les flots bleus, poussés vers la mer par un petit vent d'est, avaient l'air de s'en aller joyeusement à des affaires pressées. Il pouvait être 11 heures du matin. Le trotteur noir du comte Koumiassine, attelé à un égoïste irréprochable, à peine assez large pour qu'un homme de mince corpulence pût s'y tenir en équilibre, stationnait devant la porte, attendant son maître. Déjà, le cocher barbu regardait les fenêtres avec inquiétude et se demandait combien de temps encore il serait condamné à garder dans l'immobilité parfaite cette bête indocile. Plusieurs fois, rendant les rênes, il avait permis à l'animal, encore peu discipliné, de faire un petit tour dans la rue déserte, à cette heure et à cette saison. Mais cet avant-goût de la course ne faisait qu'exciter l'irritabilité nerveuse de Titan. Tout à coup, au détour de la rue, apparut une voiture de louage. Le cocher, vêtu d'une longue robe de drap bleu marine rongée dans le bas par la vétusté, excité d'un mouvement giratoire de son poignet gauche, auquel pendait un petit fouet de ficelle, deux chevaux poussifs, efflanqués et boiteux, dont l'un trottait et l'autre galopait. Cet équipage étrange, qui était alors le type le plus répandu de la voiture de louage à Saint-Pétersbourg, s'arrêta devant le perron des Koumiassines avec un bruit de vieille ferraille. Le cocher du comte fit reculer sa noble bête, comme s'il eût craint le contact ou même l'approche de ces animaux antédiluviens. « Encore une visite, » grommela-t-il tout bas. « Me voilà collé ici pour une heure, avec ce cheval qui ne veut pas se tenir tranquille. »« Que le diable emporte, mademoiselle !» s'écria tout le serviteur, oubliant la consigne qui défend de parler sous les armes. C'était mademoiselle Vassilissa elle-même, encore maigrelette, mais fraîche et pimpante dans sa jolie robe de percale imprimée. Elle sourit au vieux cocher qu'il avait reconnu, ferma d'un petit coup sec la portière délabrée de son piteux équipage avec la même aisance qu'elle mettait autrefois à descendre de la somptueuse voiture de sa tante, gravit d'un mouvement leste et gracieux les quatre marches du perron et sonna délibérément. « Mademoiselle ?» s'écria le valet de chambre du comte en ouvrant la porte. « Mon Dieu, il n'est rien arrivé, j'espère. »« Rien du tout, mon ami, » répondit tranquillement la jeune fille. « Mon oncle est chez lui, puis-je le voir ?»« Certainement, mademoiselle. » Le domestique, ahuri, se présenta dans le cabinet de toilette où le comte donnait un dernier coup de peigne à ses moustaches, ses vilaines moustaches blondes qui, on ne sait pourquoi, s'étaient mises à grisonner dans les derniers temps. « Mademoiselle Goroff demande à voir monsieur le comte, » dit-il d'une voix encore troublée par la surprise. Koumiassine se retourna, pensant avoir mal entendu. « C'est la mère, » se dit-il, « qui vient m'emprunter quelque argent. Allons, soyons généreux. » Il prit sur la table son mouchoir et ses gants et se dirigea d'un pas distrait vers la porte de son cabinet de travail. « Bonjour, cousine, » allait-il dire. Au lieu de Madame Goroff, il vit, devant lui, Vassilissa grandie, maigrie, blanchie, mais les yeux vifs, et un peu de couleur sur les joues. Elle lui souriait de sa bouche rose, agrandie par sa maigreur. D'abord, il ne vit que les yeux bleus et les dents blanches. « Seigneur Dieu, d'où tombes-tu » s'écria-t-il, pendant que sa nièce l'embrassait tendrement. Depuis sa plus tendre enfance, il l'avait toujours caressée, et elle était restée avec lui câline comme un petit chat. « J'arrive de la campagne, mon oncle, » répondit-elle en s'asseyant sur le canapé, comme une dame en visite. « Je me suis arrêtée 2 jours à Moscou pour me reposer, et puis pour m'acheter une robe et des bottines. »« Une robe, des bottines ?» répéta le comte ahuri. Le petit pied de sa nièce, dépassant un peu la robe, montrait en effet des bottines toutes neuves. « Oui, mon oncle, j'étais parti en robe de chambre. » « En robe de chambre. » Le comte s'abstint d'essayer de comprendre. « Et la comtesse ?»« Elle est à la campagne, mon oncle. » « À la campagne. Mais comment es-tu venu ?»« En chemin de fer, avec maman. » « Ta mère ? Je n'y suis pas. Quand es-tu parti ?»« Vendredi dernier, il y a 8 jours. »« Et pourquoi es-tu parti ?» fit le comte, saisissant enfin un fil conducteur dans le dédale de ses pensées. « Ma tante était fâchée contre moi. Elle t'a renvoyé ?» Les yeux de la jeune fille étincelèrent de malice, pendant qu'un pied de rouge montait à ses joues. « Non, mon oncle, je me suis sauvé. J'étais très malade, enfermé dans une petite chambre. Pourquoi enfermé ? J'avais désobéi. Ma tante voulait ma parole de me marier avec...
J'ai promis de ne pas dire avec qui, mais mon oncle, c'était quelqu'un que vous ne pouvez pas nommer votre neveu.
Dans le genre de Tchoudessov ?
Fit le comte d'un ton peu approbateur.
Pire que Tchoudessov, comme position sociale.
Le comte se mit à tirer sur une de ses moustaches, mâchonnant l'autre dans sa perplexité.
C'était une idée fixe, se dit-il pour sa consolation particulière. Alors tu n'as pas voulu ?
Non, mon oncle. Peut-être bien qu'au fond ma tante ne tenait pas à ce mariage, mais elle tenait à avoir ma promesse d'épouser, les yeux fermés, celui qu'elle choisirait pour moi, et moi je n'ai pas voulu promettre.
Par Dieu, je le crois bien ! S'écria le comte exaspéré. Il faut être fou pour...
Il s'arrêta, se rappelant qu'il parlait de sa moitié.
Et tu t'es enfui ?
Oui, mon oncle.
Comment as-tu fait ?
Zénaïde m'a aidé. Elle a tout préparé, et un soir, elle m'a conduit jusqu'à la voiture où ma mère m'attendait.
« Bravo !» s'écria le comte, électrisé par cet acte inouï d'audace.
Il s'est élevé dans son enthousiasme, mais il se rassit, calmé par une pensée réfrigérante.
« Et ta tante, qu'est-ce qu'elle a dit ?»«
Je n'en sais rien, mon oncle, je ne l'ai pas revue. Je lui écris quelques lignes quand je suis arrivé à Moscou, mais elle ne peut pas encore avoir répondu. J'ignore absolument ce qui s'est passé après mon départ, et je crains...
Quoi ?
Que Zénaïde et Dimitri n'aient eu à souffrir à cause de moi. C'est pour cela que je suis venu.
Dimitri aussi.
Mais oui, mon oncle, il nous a été très utile.
Ah, le petit chenapan ! S'écria le comte ravi. Ah, le petit gredin ! Est-il fin ? Est-il rusé ?
Je lui donnerai un cheval cet hiver pour sa récompense.
Il était tellement heureux d'avoir de si braves enfants, des enfants qui avaient joué un tour pendable à la comtesse, qu'il se mit à marcher par la chambre en se frottant les mains et en riant de tout son cœur.
Vassilissa le regardait, souriant aussi de cette joie paternelle. Il se tourna vers elle, et ce sourire le ramena au sentiment des convenances, légèrement écorniflé dans cette expansion d'une joie pourtant bien naturelle.
« C'est très bilin, tu sais ce que tu as fait là ?»
reprit le comte d'un air sévère. « Ta tante ?» Vassilissa ne souriait plus. Un tremblement imperceptible agitait ses paupières baissées. Le comte vit qu'elle allait pleurer. Il n'eut pas voulu faire du mal à une mouche. Il s'assit près d'elle et lui prit les mains.
« Tu as été bien malheureuse, hein ?» lui dit-il avec bonté.
« Mon Dieu, que tu es maigre !» ajouta-t-il en promenant ses doigts sur le poignet diaphane de sa nièce.
« Oh, j'ai engraissé !» répondit la jeune fille. « J'étais bien plus maigre il y a 15 jours. Mais quand Zina m'a promis de me faire sauver, j'ai recommencé à manger un peu et maintenant je vais très bien. »«
Tu ne mangeais plus ?»
« Non, j'avais envie de mourir. »
L'oncle l'embrassa paternellement sur le front en caressant les bandeaux de ses cheveux frisés.
« Que vas-tu faire à présent ? » dit-il, frappé soudain des difficultés sans nombre qui allaient surgir de tous côtés.
« Je vais m'installer avec maman dans son petit logement. Je chercherai des leçons de piano. Ma tante m'a donné une éducation dont je lui serai toujours reconnaissante. C'est un gagne-pain assuré.
« Tu es une bonne enfant, » répondit le comte, plus touché de sa modération, qu'il ne l'eût été du récit détaillé de ses souffrances.
Il se leva et alla à son bureau. Dans un tiroir spécial était la somme réservée aux pertes de jeu dont le chiffre dépassait la moyenne. Il y prit une liasse de billets de banque et la déposa sur les genoux de sa nièce.
« Tiens, lui dit-il, je ne jouerai pas ce mois-ci, et ça nous fera le plus grand bien à tous les deux. Ne t'installe pas à Pétersbourg à cette saison, c'est l'époque des fièvres. Tsarskoe Selo ou à Pavlovsk, repose-toi. Prends un bon de bon air et de bon temps. Bois du vin de Bordeaux, mange de la viande. Va voir notre médecin, j'en fais mon affaire. Et achète-toi des robes, ajouta-t-il en riant. Quand tu n'auras plus grand-chose, tu reviendras me voir. Ou plutôt, se reprit-il, songeant que, hélas, il ne serait pas toujours seul. Écris-moi, et je viendrai te voir.
Vassilissa, très touchée, le regarda à travers les larmes qui lui montaient aux yeux.
Je ne veux pas, reprit-il d'une voix légèrement rouée. Exigeait de toi la même promesse qu'exigeait ta tante. Mais si un brave homme, un gentil garçon, me demandait ta main, tu me permettrais bien de te le présenter.
Oh, mon oncle, de vous !
Le comte posa un doigt sur ses lèvres.
Il ne faut pas dire Fontaine, dit-il, mais il ne faut pas non plus s'engager imprudemment. Sur ce chapitre d'ailleurs, je crois n'avoir rien à t'apprendre.
Vassilissa sourit, baissa doucement la tête et se leva.
Pourquoi ta mère n'est-elle pas venue ? Demanda son oncle.
« Tu es seul ?»«
Seul dans une grande vieille voiture affreuse. Maman a craint de vous déranger. »«
Veux-tu que mon cocher te reconduise ? Titon doit être à la porte avec l'égoïste.
Il est superbe. Veux-tu ?
Non, merci, mon oncle. Je ne dois pas, en l'absence de ma tante.
Tu as 100 fois plus de bon sens et d'esprit que moi,
dit le comte en l'embrassant. Souhaite le bonjour de ma part à ta mère.
Vasilissa s'arrêta sur le seuil de la porte.
Mon oncle, dit-elle, ma tante ne sait peut-être pas que Zénaïde et Dimitri m'ont aidé. Dans tous les cas, Dimitri au moins aura été épargné. Zina aura tout pris sur elle, ne la trahissez pas.
Bon, sois tranquille. D'ailleurs, avant d'écrire, j'attendrai qu'on m'annonce ton départ. Je suis ton oncle, que diable. Et depuis 8 jours, il me semble qu'on aurait bien pu prendre la peine.
Le comte acheva en lui-même ses réflexions conjugales. Il reconduisit sa nièce jusqu'à la porte et donna ordre à son valet de chambre de la mettre en voiture.
Pendant que Vasilissa attendait sur le perron que le cocher fit avancer ses haridelles, un petit drojki arrivait qu'un cas de l'autre côté et déposait sur le trottoir Mademoiselle Justine, retour d'une visite de charité. Occupée à payer son izvotchik, elle ne fit pas d'abord attention à ce qui l'entourait. Mais après avoir remis son porte-monnaie dans sa poche, elle releva le devant de sa robe pour monter les 4 marches et se trouva nez à nez avec Vasilissa qui la regardait faire.
« Un seigneur ! » s'écria-t-elle.
Dans son saisissement, elle laissa tomber son sac et son ombrelle que les domestiques se gardèrent bien de ramasser. Elle les ramassa elle-même, puis tendit les bras à la jeune fille qui s'effaça avec un geste plein de fierté.
« Ne me touchez pas, mademoiselle ! » dit-elle d'un ton moqueur. « J'ai la peste. Je suis en disgrâce. Jugez un peu. Si vous aviez l'imprudence de m'embrasser, vous pourriez perdre vos honneurs et dignité. Ce serait grand dommage, il vous vend si bien. »
« La peste ? En disgrâce ? » répéta la protégée, saisie d'effroi à cette terrible nouvelle.
« Oui, mademoiselle, telle que vous me voyez, j'ai fui nuitamment à la maison de ma tante, avec ma mère, dois-je dire, de peur que vous ne soyez suffoquée par l'excès de votre joie. » Il y a une place à prendre ici. Voyez si vous êtes muni de diplômes suffisants. »
Là-dessus, Vasilissa monta dans sa voiture centenaire et partit, toujours au petit trot d'une de ses rosses et au galop de l'autre, allure incommode s'il en fut. La protégée regardait le véhicule s'éloigner. Dans l'excès de sa surprise, elle eût pu rester longtemps sur le perron si le domestique ne lui eût dit sans trop de cérémonie « Eh bien, mademoiselle, est-ce que vous entrerez ?» Elle entra sans mot dire, monta à sa chambre, ôta son chapeau et tomba dans une méditation profonde. Que s'était-il passé ? À moins que Vasilissa ne se fût outrageusement moquée d'elle, la disgrâce devait être vraie. Mais comment le savoir ? Interroger le comte ? Impossible. Le comte avait une manière de saluer Justine quand, par hasard, il la rencontrait, qui envoyait celle-ci aussi loin que le Sahara. Restait la petite police particulière. Afin de soutenir ses esprits animaux, comme disaient nos pères, Justine se fit donner une bonne tasse de café à la crème, puis elle remit son chapeau et partit en guerre, semblable à plus d'un héros épique.
Chapitre 47. Comment se retrouve. Une fois le premier mouvement de joie passé, Madame Gorov se trouva assez embarrassée de sa fille. Cette jeune créature brillante, aux mains soignées, aux allures aristocratiques, était peu en harmonie avec son intérieur mesquin. Les voisines et amies de la bonne dame étaient d'excellentes personnes, vulgaires, de la petite noblesse, et dans ce troupeau d'oies, Vasilissa semblait un signe dépareillé. Aussi l'arrivée des billets de banque du comte Koumiassine fut-elle 100 fois la bienvenue, car elle permit aux deux dames d'émigrer à Pavlovsk pour le reste de l'été. Madame Gorov courut le même jour s'assurer dans une maison bourgeoise un petit appartement meublé, à un prix relativement modique, vu la saison avancée. Pendant son absence, Vasilissa reçut une visite dont elle fut aussi charmée que surprise. Vers 3 heures de l'après-midi, elle vit arriver, cahotée sur un drojki, Mademoiselle Bochet, son ancienne gouvernante. On s'embrassa, on s'expliqua, on prit des arrangements. Mais la bonne Suissesse ne dit pas tout. Et elle fit bien, car Vasilissa eut refusé un secours qui lui arrivait cependant à point nommé. Au moyen de l'adresse qu'il s'était fait donner par Zina, le prince avait écrit à Mademoiselle Bochet à peu près en ces termes. « Mademoiselle Gorov ne peut vivre seule avec sa mère. Les habitudes et les goûts de ces deux dames différent totalement. Au nom de l'amitié qui vous a longtemps attachée à votre élève, abandonnez vos occupations actuelles. Vous trouverez sous ce pli une compensation pécuniaire que j'augmenterai s'il est insuffisante, à la seule condition de ne plus quitter Mademoiselle Goroff et de lui laisser ignorer de quelle part lui vient la bonne fortune de vous avoir près d'elle. Je désire expressément que mon nom ne soit jamais prononcé en sa présence. Comme ces dames seront probablement gênées par les dépenses que va nécessiter leur genre de vie, veuillez mettre vos économies à leur disposition. Je m'engage à couvrir toutes vos avances. Il est indispensable que Mademoiselle Goroff se montre partout où l'on peut rencontrer du monde. Après ce qui s'est passé, les bruits calomnieux ne manqueront probablement pas sur son compte. Que son indifférence et votre présence auprès d'elle les démentent de la façon la plus formelle. Suivez quelques compliments, du reste bien mérités par la brave fille, qui comprit aussitôt ce que le prince voulait d'elle, et, disons-le à son honneur, ne lui prêta aucune mauvaise pensée. Madame Goroff, on ne peut plus heureuse de n'avoir plus à s'occuper de promener sa fille, accepta l'offre que lui fit Mademoiselle Bochet de vivre avec elle sans émolument, et dès le soir du lendemain, la petite colonie se transporta à Pavlovsk. La saison était magnifique. Tous les soirs, plus spécialement le lundi et le vendredi, la foule aristocratique des pétersbourgeois en villégiature se portait au concert de l'excellent orchestre qui remplaçait alors celui de Johann Strauss. Certainement, on ne mettait pas la même passion à suivre ces concerts qu'au temps où l'inimitable Strauss, sans rival au monde, daignait parfois jouer lui-même la partie de violon d'une de ses valses qui ont fait en tournoyant le tour du monde. Le chef d'orchestre allemand, un peu chauve et très prosaïque, ne pouvait pas transporter au septième ciel les âmes des praticiennes comme son prédécesseur. Ce brave homme n'avait ni le coup d'archer diabolique, ni le coup d'œil fascinateur, ni l'air inspiré et presque pitique du divin Johann Strauss. Mais l'orchestre d'élite qu'il dirigeait n'en exécutait pas moins de main de maître un riche répertoire de morceaux choisis dont le seul tort était d'être parfois un peu trop sérieux. Sérieuse ou non, la musique a cela de bon qu'on est libre de ne pas l'écouter, et tous les soirs, dès 7h30, un torrent d'équipages non interrompus franchissait la grille du parc. Quelques-uns déposaient leurs somptueux fardeaux dans le jardin du Vauxhall. Mais beaucoup de calèches restaient en ligne dans l'allée qui borde le canal, et les belles paresseuses écoutaient sans se déranger les accords adoucis par la faible distance et par les buissons à hauteur d'homme de quelques bosquets. Cavaliers et piétons allaient d'une calèche à l'autre, causant, riant. Quelle occasion sans pareille de faire un peu de coquetterie, assaisonnée d'un peu de sentiment. Parfois, interrompant un éclat de rire, un doigt levé en l'air commandait le silence. On écoutait, murmuré par les violons ou lancé par les cuivres retentissants, une phrase célèbre, une mélodie immortelle, qui passait ailée au-dessus de ses têtes profanes pour aller se perdre dans les grands arbres du parc. Puis, la causerie et le jabotage reprenaient de plus belle. Le Vauxhall s'illuminait dessinant les maigres lignes de son architecture sur le ciel devenu moins clair. Les lanternes des voitures s'allumaient comme des yeux dans l'ombre, esquissant une longue traînée d'équipage. Les étoiles se montraient au ciel gris-perle entre les hautes cimes des arbres. De temps en temps, un couple quittait le jardin bruyant et lumineux, traversait la route et se perdait dans les méandres du grand parc discret, et régulièrement, le sifflet strident du train de Pétersbourg sonnait l'heure, comme la main du temps implacable, rappelant aux belles oisives couchées dans leurs calèches, aux cavaliers penchés sur les portières, aux groupes amoureux perdus dans la verdure, que la réalité sans pitié nous force, quoi que nous en ayons, à revenir sur la terre, au milieu du rêve le plus enchanteur. C'est dans ce milieu mondain, parfumé, irréprochable, du lundi, que Vassilissa fit son apparition. Sa beauté transfigurée, sa toilette élégante et de bon goût, attirèrent l'attention de cette foule où tout le monde se connaît de vue, où chaque visage nouveau excite une question. « Eh, c'est Mademoiselle Goroff ?» s'écrièrent quelques-uns. « C'est la nièce de la comtesse Koumiassine, » dirent ceux qui ne s'étaient jamais inquiétés de savoir son nom. Plusieurs mères de famille s'approchèrent de la jeune fille, lui demandèrent des nouvelles de sa tante, et en apprenant que Vassilissa venait de Pétersbourg avec sa mère seulement, battirent en retraite avec les signes de la plus prudente réserve. Les hommes n'avaient pas les mêmes raisons de se tenir à l'écart. Plus d'un vint faire sa cour à Mademoiselle Goroff, encouragé peut-être dans une mauvaise pensée par le bruit vague de la rupture avec la comtesse. Vassilissa contemplait les désertions et les empressements avec le même dédain amer. On apprend vite à connaître le monde dans les situations exceptionnelles. Elle en savait plus, désormais, sur la véritable amitié et sur la fausseté des apparences que telle mère de famille blanchie sous le harnais avec son escorte de filles à marier. Elle classa au même rang les hommes trop empressés et les femmes trop froides, et se promit de leur prouver plus tard qu'elle avait de la mémoire. Deux ou trois amis de sa tante, Madame Soutsoff entre autres, eurent le courage de leur opinion et traitèrent la jeune fille en amie. À celle-là, Vassilissa jura une reconnaissance éternelle. Depuis 8 jours environ, accompagnée de Mademoiselle Bochet, elle assistait au concert, le dimanche excepté, à cause de la vulgarité du public dominical, et dans son âme, elle commençait à se sentir navrée de tout ce bruit, ce vide égoïste et affairé, lorsqu'un soir elle vit s'avancer Maritsky. Tout son sang sembla l'abandonner. Involontairement, elle se cramponna à son fauteuil de jardin. « S'il passe sans me voir, » pensa-t-elle, pris soudain d'un immense ennui de la vie, « j'irai au couvent. » D'où lui venait cette résolution subite et désespérée? Elle n'eut pas le temps de s'en rendre compte. Le jeune homme l'avait d'abord regardée avec étonnement, doutant que ce fût elle, tant il la trouvait changée, et maintenant il s'avançait d'un pas rapide. « Mademoiselle, » lui dit-il chaleureusement, « que je suis aise de vous revoir. Vous avez été malade. Qui vous a appris ?» dit faiblement Vassilissa, en s'efforçant de ne pas laisser trembler la main qu'elle mettait dans celle de Maritsky. « Il suffit de vous regarder, votre tante. » Cette question, toujours cette question qui énervait Vassilissa comme le grincement d'un canif sur une vitre. « Ne parlons pas de ma tante, » répondit-elle avec une sorte de fièvre. « Demandez à qui vous voudrez de vous raconter cette histoire. Voilà 8 jours qu'on ne me parle pas d'autre chose. » Maritsky la regarda plus attentivement. Elle avait l'air bien fatiguée. En effet, une fatigue immense venait de s'abattre sur elle. La fatigue de sa position douteuse, de son avenir incertain. « Je ne parlerai que de ce qui vous plaira, mademoiselle, » répondit le jeune officier. « Vous permettez ? » ajouta-t-il en prenant une chaise, mais attendant la réponse de Vassilissa pour s'asseoir. Aucun des hommes qui lui avaient parlé depuis son arrivée à Pavlovsk n'avait témoigné tant de réserve, et son cœur lui proclama une fois de plus combien Maritsky était supérieur au reste du monde. Ils causèrent une demi-heure environ. Mademoiselle Bochet s'inquiétait bien un peu de la longueur de cet entretien, mais elle estimait assez son élève pour la croire incapable d'une flirtation ordinaire. Elle resta donc témoin bienveillant de cette causerie innocente. « Vous me permettrez peut-être de rendre visite à madame votre mère ?» dit Maritsky en se levant. Incliné devant la jeune fille, il attendit la réponse. « Ma mère sera charmée de faire votre connaissance, » répondit-elle. Personne n'avait encore demandé à voir sa mère. Quand le jeune officier se fut mêlé à la foule, « Rentrons, » dit Vassilissa, « je suis fatigué. » Les deux dames reprirent silencieusement le chemin de la maison. Il leur fallait traverser le parc, déjà presque sombre. Vassilissa prit le bras de Mademoiselle Bochet. « Il y a longtemps que vous connaissez ce jeune homme ?» demanda la gouvernante. « Depuis l'hiver dernier. » « Ma bonne amie, s'il vous interroge, « dites-lui tout. »« Oui, tout, » répéta Vassilissa, songeuse. « Tout. »« Très bien, » fit Mademoiselle Bochet, qui n'osait s'avancer. « S'il ne vous demande rien, s'il ne vient pas voir ma mère, j'irai au couvent, » acheva la jeune fille. « Et maintenant, s'il vous plaît, nous n'en parlerons plus. » Le lendemain, vers 4 heures, un drojki élégant s'arrêta devant la porte de la petite maison de bois qu'habitait Madame Gorov, et Maritsky se fit annoncer par la petite femme de chambre. Sans paraître surpris ni choqué de l'extrême modestie de leur installation, il présenta ses hommages aux dames, s'adressant particulièrement à Madame Gorov et à Mademoiselle Bochet. Combien Vassilissa lui sut gré de la laisser de côté et que cette conduite délicate lui parut de bon goût. Madame Gorov, qui n'avait pas le tact le plus parfait, se montra un peu trop aimable envers le bel officier. Mais Mademoiselle Bochet sut la retenir adroitement dans la limite des convenances. Lorsque le jeune homme se fut retiré, après une courte visite, Madame Gorov s'approcha de sa fille, qui restait muette, assise auprès de la croisée. « Hé, dis-moi, Lisa, c'est un promis pour toi ? Il est gentil ?
Est-il riche ?
Je ne sais pas, maman, répondit la jeune fille, si c'est un promis ni s'il est riche. Je sais seulement que c'est un honnête homme.
Ainsi rabrouée, la mère s'en fait verser le flot de ses espérances matrimoniales dans le sein de la bonne Suissesse, qui ne lui donna pas beaucoup plus d'encouragement, mais qui la laissa parler.
Comme l'avait prévu l'orpheline, Maritski s'adressa à Mademoiselle Bochet pour connaître les circonstances qui avaient séparé la jeune fille de sa tante, et l'institutrice lui parla franchement, suivant qu'elle y avait été invitée. Les circonstances dramatiques de la réclusion et de l'évasion de Vassilissa inspirèrent au jeune homme un enthousiasme sans bornes. Il avait toujours été un peu amoureux d'elle, et son premier mouvement, en la revoyant, avait été une joie véritable. Opprimée et sans fortune, elle lui devenait 100 fois plus chère. Il n'était pas de ceux que les traces de la douleur et de la maladie effraient sur un beau visage. Ce n'est pas le beau visage seul qu'il aimait, et dans les yeux bleus, il voyait autre chose que la forme admirable et le velouté du regard. Lorsqu'il fut au courant de cet été fertile en événements, il choisit une belle soirée pour en parler avec Vassilissa. « Vous m'aviez promis de m'informer des circonstances dans lesquelles vous aviez quitté votre tante, » dit-il. « Je l'ai fait. Autorisez-vous à vous dire combien je vous admire pour votre courage et votre fermeté ?» La jeune fille ne répondit rien. « Vous avez refusé 2 fois d'unir votre sort à celui d'un homme indigne de vous. Est-ce le mariage ou le mari qui vous faisait peur ?» Vassilissa rougit. « Ce n'était pas le mariage, » dit-elle. « D'autres se sont mariés et sont heureuses. » La soirée était superbe. Ils se rendaient à la musique. Madame Gorov et la Suissesse marchaient à quelques pas derrière eux dans le parc assombri. Ils étaient seuls, puisqu'on ne pouvait les entendre. « Et vous ? Espérez-vous être heureuse un jour ?» demanda Maritski d'une voix grave.
« Je ne sais, » répondit-elle tout bas, pour cacher l'émotion de sa voix.
Ils firent quelques pas. Un gros buisson de lilas qui commençait à perdre ses feuilles les cacha aux deux dames.
« Si vous vouliez vous fier à moi, » reprit le jeune officier en saisissant la main que Vassilissa laissait pendre à son côté,
« je crois que vous seriez heureuse,
car je vous aime. »
L'orpheline le regarda bien en face. Ses yeux bleus brillaient d'une fierté sans égale.
« Je suis pauvre, » dit-elle, « en disgrâce. Le monde me blâme, me méprise peut-être. Et vous, m'estimez-vous ?»«
Je vous aime, » répliqua Maritski.
Ses yeux brillèrent aussi du feu de l'orgueil le plus légitime.
« Qui donc oserait ne pas estimer ma femme ?»
Les deux regards qui s'étaient croisés comme deux lames d'acier se fondirent en une inexprimable caresse, et Maritski, s'inclinant, posa ses lèvres sur la main qu'il tenait encore.
« Eh bien, que faites-vous ? » s'écria Madame Gorov en doublant le buisson de lilas.
« Nous vous attendons, maman. »
« Je pense que nous ne ferions pas mal de retourner à la maison. J'ai beaucoup de choses à vous dire. »
Il offrit son bras à Vassilissa. Ils traversèrent ainsi le parc. Au grand ébahissement des promeneurs, accoutumés à ne voir marcher ainsi que les jeunes mariés et tout au plus les fiancés officiels. Maritski s'expliqua en long et en large. Madame Gorov ne put maîtriser son émotion en apprenant que le jeune officier était fils unique de parents riches, qu'il adorait et n'avait d'autre volonté que la sienne. Vassilissa jeta un regard d'orgueil sur son fiancé en pensant qu'elle n'avait jamais su ni voulu savoir s'il était riche ou pauvre, et que lui la prenait telle qu'elle, sans doute, et pour elle-même.
« Ce n'est pas tout, » dit la jeune fille lorsque sa mère eut béni les promis et versé sur leurs épaules tout ce qu'elle avait de larmes disponibles.
« Il faut que j'écrive à ma tante. »«
Est-ce que vous ne lui avez pas écrit depuis votre départ ?» demanda Maritski. « Quelques lignes seulement, datées de Moscou, mais elle ne m'a pas répondu. »«
Écrivons donc à notre tante, » s'écria gaiement le fiancé.
On apporta une petite table, est-ce qu'il faut pour écrire ? La lampe fut rapprochée, et les deux promis s'installèrent côte à côte pour confectionner la fameuse épître. Malgré les efforts les plus louables, ils n'arrivèrent pas à produire quelque chose de satisfaisant. Peut-être, c'est un succès, était-il dû en partie à ce que Maritski avait emprisonné dans sa main droite la main gauche de Vassilissa, et l'on sait combien il est difficile d'écrire sans tenir son papier.
Tant est-il qu'à 10 heures, Madame Gorov, malgré les réclamations de celui-ci, mit son futur gendre à la porte,
lui démontrant, pour le consoler, qu'il habitait à Tsarskoe Selo, que le dernier train allait partir et qu'il aurait la ressource de revenir le lendemain. Maritsky finit par dire à Madame Gorov qu'elle abusait du droit qu'ont les belles-mères de malmener leurs gendres, et riant à qui mieux mieux, le groupe finit par se séparer, non sans que Maritsky eût manqué le train. Il ne voulut pas prendre le drojki de louage et s'en alla à pied par les allées pittoresques du jardin anglais qui relie les deux villes Pavlovsk et Tsarskoe Selo. Cette promenade de 4 kilomètres ne lui parut pas longue. Son cerveau était calme, il n'avait agi sous l'empire d'aucune passion impétueuse, mais son cœur était plein. « Ton bonheur est là !» lui avait crié à la fois le sentiment et la raison. Le jeune homme avait écouté leur voix, et maintenant il planait dans cette félicité calme, propre aux tendresses sérieuses. Il rentra chez lui, complètement heureux. Vassilissa s'endormit ce soir-là dans le 7e ciel. Ceux qui n'ont pas souffert ne peuvent connaître le prix du bonheur acheté par des tortures. Leur vie est à l'abri des orages, mais la joie ineffable de posséder en paix un bien qu'on a cru inaccessible leur est inconnue, et tels qu'ils sont, je plains ces pauvres heureux. Vassilissa n'était pas de ceux-là, et son bonheur, chèrement acheté, fut pour elle un enivrement complet. Il fallait pourtant fabriquer la fameuse lettre, et ce n'était pas une chose aisée. Elle y mit tous ses soins et finit par mettre au jour la chose suivante. « Ma chère tante et bienfaitrice, depuis que j'ai quitté votre maison avec les apparences de l'ingratitude, bien qu'au fond mon cœur fût plein de reconnaissance pour vos bienfaits, il m'est arrivé un grand événement. Je suis fiancée à Alexis Maritsky, de qui j'avais fait la connaissance chez vous l'hiver dernier. J'espère, ma bonne tante, que ce mariage aura votre agrément et que vous voudrez bien me bénir et me conduire à l'hôtel. Votre nièce reconnaissante et soumise. » « C'est un peu court, » fit observer Maritsky après avoir lu. « Tu crois ?» Suivant la coutume russe, les fiancés se tutoyaient. Charmante prémisse du mariage quand on s'aime. Elle regarda le papier, penché sur son épaule. « Oui, décidément, c'est un peu court, » répéta Maritsky d'un air perplexe. « Que veux-tu que je lui dise de plus ?»« Le fait est, » répondit-il en riant, « que je ne vois pas ce qu'on pourrait y ajouter. Court et clair. » « Crois-tu qu'elle te réponde ?»« Certainement, » fit la jeune fille en appuyant avec énergie le cachet dans la cire molle. « Qu'est-ce qu'elle te répondra ?»« Un sermon en 4 pages, peut-être 6. Oh, que je voudrais avoir une lettre de Zina. »« Écris-lui. »« Elle ne lira pas ma lettre, ce n'est pas la peine. »« Et puis, que veux-tu que je lui écrive quand je sais que c'est ma tante qui se régalera de mon style ?»« Pauvre Zina, elle serait si contente. »« Tout de même, ta tante est joliment mauvaise. » s'écria Maritsky après un moment de réflexion. « Au fond, elle n'est pas méchante, » fit Vassilissa de sa voix douce. « L'ogre non plus n'était pas méchant, » reprit Maritsky, parodiant Dimitri sans s'en douter. « Mais quand il avait faim, il mangeait les petits-enfants. » « C'est très mal, » répondit Vassilissa en faisant une jolie petite moue. « Qu'est-ce qui est très mal ?» fit Maritsky en l'imitant. Elle éclata de rire, et jusqu'à nouvel ordre, on ne parla plus de la tante. Chapitre 48e. Un complot. Pendant que les amoureux attendaient sans trop d'impatience la fin des délais, que dans sa bonté, le ciel impose aux époux avant de leur passer au cou les chaînes de l'hyménée, production d'actes de décès ou de naissance, autorisation de la famille, etc., etc., Justine Adamovna ne perdait pas son temps. Sa petite police particulière avait travaillé d'une façon tout à fait méritoire et lui avait appris 2 choses très importantes. Premièrement, la veille du jour où elle avait quitté Pétersbourg pour aller chercher sa fille, Madame Gorov avait reçu une lettre chargée. Or, la loi suivant laquelle s'effectuait alors en Russie la remise des lettres chargées exigeait que le destinataire se présentât en personne au bureau central ou bien transmît ses pouvoirs à une autre personne, le tout accompagné de longues formalités de police. La prudente Justine avait appris de la sorte que la lettre chargée venait du prince Chourov, obligé de donner son nom et son adresse à l'extérieur de l'enveloppe. C'était un grand point, mais ce n'était pas tout. Une seconde information lui avait appris que le même prince Chourov avait également envoyé une lettre chargée à Mademoiselle Bochet et que celle-ci avait aussitôt quitté sa villégiature pour s'installer auprès de Vassilissa, qui, vêtue selon son rang, se promenait tous les jours à Pavlovsk. Donc, Mademoiselle Gorov vivait aux dépens du prince, attendant sans doute que celui-ci vînt la rejoindre, et Justine se disait avec amertume qu'il ne tarderait pas à l'épouser. Tout à coup, au miracle, une lettre de Vassilissa à l'adresse de son oncle fut déposée à la maison Koumiassine. Le comte se trouvait alors absent. On n'a jamais su par quel prodige Justine se rendit maîtresse du contenu de la lettre. Toujours est-il que le soir même, elle savait d'une manière positive que Mademoiselle Gorov se préparait à devenir Madame Maritsky dans le plus bref délai. Cette nouvelle stupéfia d'abord la protégée. Quoi ? Cette méchante fille, indocile, insolente, qui l'avait outragée de toutes les façons, allait épouser un beau jeune homme qui n'était pas le prince Chourov, mais alors le prince. Une clarté céleste illumina Mademoiselle Justine. Alors, c'était bien simple. Le prince avait acquitté une dette et Maritsky passait en second lieu. Quoi de plus élémentaire ? C'était élémentaire et cependant Justine ne put s'empêcher de s'incliner devant la haute sagesse qui avait présidé à cet arrangement. « Je ne l'aurais pas crue si forte, » se dit-elle avec une sorte d'admiration. Ce n'était pas assez que d'avoir pénétré tous ces mystères. Les belles âmes ne peuvent se résoudre à garder leur joie pour elles seules. Justine s'assit à son bureau, celui-là même qui servait à sa vertueuse correspondance avec la comtesse, et de la plume habituée à écrire des rapports sur les établissements de charité. « Oh, chaste muse, voilez votre face !» Justine assigna un rendez-vous, oui, un rendez-vous, à Nicolas Tchoudessov. Nicolas Tchoudessov pensait à tout autre chose lorsqu'il reçut la lettre. En voyant les caractères, pour ainsi dire, officiels de l'adresse, il s'imagina recevoir quelques messages bureaucratiques et mit le message dans sa poche sans l'ouvrir. Quelques heures plus tard, cependant, il se reprocha sa négligence, chercha la missive oubliée et la signature de Justine, signature discrète, deux initiales entrelacées, fit sur lui l'effet que les anciens attribuaient à la tête de Méduse. Le plus désagréable souvenir lui était resté de sa dernière campagne sous les ordres de cette vaillante fille. Il lut cependant et regarda sa montre. L'heure était proche, si proche qu'elle était même un peu entamée. Il prit un drojki et, prompt comme l'éclair, vola au lieu du rendez-vous. Le jour baissait. Les réverbères s'allumaient de toutes parts dans l'air poussiéreux de cette soirée d'août. Le square peu soigné des ingénieurs, où Justine devait l'attendre, était parsemé de papiers de toutes sortes, enveloppes de bonbons ou de saucisses. Des pots d'orange oubliés par les balayeurs depuis le printemps parsemaient les massifs d'arbrisseaux malingres. Quelques femmes de chambre devisaient avec des artisans. Le lieu était vulgaire, l'heure déplaisante, la poussière suffoquait Tchoudessov. Il ne put s'empêcher de faire un rapprochement mental entre l'endroit, dépourvu de toute fraîcheur, et la demoiselle qui s'avançait vers lui, voilée et impatiente. « Vous êtes en retard, » lui dit-elle, d'un ton de reproche enjoué. Le spectre jauni de ses jeunes années passa devant les yeux de l'employé, qui chassa promptement cette image importune. « J'avais un mauvais cheval à mon drojki, » répondit-il. Les gens qui arrivent trop tard ont toujours un mauvais cheval à leur drojki. Elle l'entraîna vers le coin le plus désert du square, où ils trouvèrent un banc. « Vous souvenez-vous de Vassilissa Gorov ?» dit brusquement Justine. « Si je m'en souviens. »« J'ai de bonnes raisons pour ne pas l'oublier, » répondit Tchoudessov en passant légèrement l'index de sa main droite sur son bras gauche. « Voulez-vous vous venger ?» murmura la protégée en plongeant ses yeux acérés dans ceux de son ami. Celui-ci amortit sous ses paupières baissées l'éclair subit de son regard et répondit innocemment « Me venger, de qui ?»« D'elle et de lui. »« Qui, lui ?» Le prince. » Tchoudessov garda le silence. « Les grandes joies sont muettes, avons-nous dit. »« Pourquoi pas ? » répondit-il doucement, quand il fut maître de sa voix. « Mais cela se peut-il ? Sans cela, vous en aurais-je parlé ? Vous aurais-je dérangé ? Oh, Justine Adamovna, le plaisir de vous voir !» La vieille fille laissa tomber sur lui un regard où une sorte de question se mêlait à je ne sais quel dédain amer. « Laissons là le plaisir de me voir. Vous n'en êtes pas friand d'ordinaire. » « Oui, cela se peut, vous dis-je. Mais j'entends, cela se peut-il sans danger ?»« Sans danger aucun, pour nous, » ajouta-t-elle en découvrant dans un doux sourire toute une rangée de perles jaunes d'un bel Orient. « C'est ainsi que je le comprends, » répliqua Tchoudessov. en montrant ses dents pointues, semblables à celles d'un loup. Justine raconta alors les faits, rien que les faits, à son ami, le laissant libre de tirer lui-même les conclusions évidentes. Mais son ami ne l'entendait pas ainsi, il avait peu de goût pour les responsabilités. « Alors, vous concluez ?» fit-il quand elle eut terminé. « Vous le concluez aussi bien que moi, » dit-elle avec humeur. « Le prince paye, c'est probablement parce qu'il a acheté. » Mais la vengeance, je ne saisis pas. Justine pensa qu'en comparaison des femmes, les hommes sont bien bêtes. « Elle veut se marier avec Maritsky, » dit-elle avec une sorte de compassion pour le manque d'intelligence de son ami. « Oui, eh bien, Maritsky a une famille très noble, très ancienne, irréprochable. Croyez-vous que cette noble famille consente à admettre la demoiselle quand elle saura la vérité ?»« Ah, c'est juste. Vous êtes extraordinaire, Justine Adamovna. Je n'aurais pas pensé à cela. Et si la famille refuse, le jeune homme sera au désespoir. Et il tuera Chourov, en duel, bien entendu. » Les deux amis se mirent à rire avec un ensemble parfait. « Mais il n'épousera pas la demoiselle, » acheva Tchoudessov. « C'est ce qu'il faut, qu'elle meure fille !» s'écria la protégée, avec l'accent d'une haine implacable. Tchoudessov l'écoutait, ravi, et se confirma de plus en plus dans l'opinion qu'elle irait bien toute seule. « Mais les parents, comment la prendront-ils ? On écrit et l'on ne signe pas, » répondit Justine en regardant l'ourlet de son mouchoir. « Fort bien, c'est très ingénieux. » « Mais qui est-ce qui écrira ?»« Vous, puisque c'est vous qui vous vengez, » riposta la protégée pleine de candeur. « Moi, non, » répliqua nettement Tchoudessov. « J'ai une position. Je ne puis me compromettre. Je préfère y renoncer. » Ayant dit, il croisa ses jambes avec l'air d'un homme complètement détaché des choses d'ici-bas. « Ce sera donc moi, » murmura son ami d'un air sombre. « Ah, Tchoudessov, vous aurez fait de moi ce que vous aurez voulu toute votre vie. » Le reste de cette pensée s'éteignit dans un soupir. L'ami se leva pour couper court aux entraînements d'une situation qui rendait encore plus dangereuse l'heure propice aux épanchements. « Vous êtes ma véritable, ma seule amie, » dit-il avec effusion. « Vous êtes bonne et dévouée. Je vous en remercie de tout mon cœur. » Un second soupir fut toute la réponse de Justine. « Et quand ferez-vous cette petite affaire ?» reprit Tchoudessov d'un air distrait. « Le plus tôt possible, peut-être ce soir même, en tout cas demain. Nous ne serons pas longtemps avant d'en connaître les résultats. » Le couple se serra affectueusement la main et se sépara.